Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. Alors, ce matin, vas-y. Oui, oui, c'est allumé, René. Ouais. Ah ouais. Ok. Bah, tu peux t'asseoir à côté de moi si tu veux, René. Hein. Je tiens à l'œil ce matin. J'ai à l'œil. Il m'a dit des trucs tout à l'heure, je vous dis pas quoi, mais bon, voilà. Alors, vous savez que pour l'année 2019-2020, nous sommes dans une série à thème autour de la grande question. Et cette question, c'est de savoir qui est Dieu et qu'est-ce que nous pouvons connaître de Dieu. Peut-être juste souligner ou rappeler en préambule qu'il est impossible à nous autres, les êtres humains, de faire le tour de la question de Dieu. C'est-à-dire d'arriver à tout savoir, à tout connaître sur Dieu. Et c'est normal, pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres créés. Nous sommes des êtres qui sont finis, tout simplement. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a laissé, nous a donné sa parole. Et en tant que chrétiens, nous croyons qu'au travers de la lecture de ce que nous appelons la Bible, ou alors les écrits sacrés ou les écrits saints, il est possible d'arriver à savoir, à découvrir des aspects de Dieu, tout en sachant que la Bible ne nous dit pas tout par rapport à Dieu, puisque Dieu est plus grand que sa parole. Mais en même temps, l'essentiel dont nous avons besoin pour notre vie, pour comprendre comment le monde fonctionne, comment est-ce que nous fonctionnons, et ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, eh bien, l'essentiel se trouve dans la parole de Dieu. Alors, qui est Dieu ? La fois dernière, celui que j'appelle mon ancien, Emmanuel Dogviller, a introduit ce sujet en parlant, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il a parlé de la transcendance de Dieu. Alors, la transcendance de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu surpasse ou est plus grand que sa création, puisque le terme vient du latin, qui signifie littéralement « surpasser ». Et donc, dire que Dieu surpasse sa création, en réalité, c'est bien faible, parce que Dieu est bien au-delà, est bien plus grand que sa création, il est au-dessus d'elle, il est distinct de ce qu'il a créé, et quelque part, dans une certaine mesure, il ne fait même pas partie de sa création. Même si, comme nous allons le voir ce matin, il en fait aussi partie. Mais le fait que Dieu surpasse sa création, eh bien, se manifeste de plusieurs manières. Comme vous l'aviez vu la fois précédente, ça se manifeste dans le fait que Dieu est tout puissant, qu'il sait tout, et qu'il peut se trouver partout en même temps. Ça veut dire que nous croyons qu'il est présent aujourd'hui, ce matin, avec nous, mais il est aussi présent avec des personnes qui se trouvent à d'autres endroits, avec des amis peut-être qui se trouvent en Australie, avec des amis qui se trouvent en Afrique ou autre. Dieu peut être présent partout. Et ça, c'est possible parce que Dieu est transcendant. Ça veut dire qu'il surpasse, il dépasse, il déborde de sa création. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect en ce qui concerne Dieu et nous allons parler de ce que nous appelons en théologie. Et je rappelle ici que la théologie, c'est pas quelque chose de compliqué comme parfois on se l'imagine. Vous avez des chrétiens qui vous disent « moi je fais pas de théologie ». Bien, la théologie c'est quoi ? La théologie c'est tout simplement l'étude de Dieu. Ça veut dire que quand tu ouvres ta Bible et que tu lis ta Bible et que tu essayes de mettre en pratique ce qui est marqué dans la Bible, tu es en train de faire de la théologie. Ça s'appelle de la théologie pratique. Ça veut dire que tu es ancien en train d'essayer d'appliquer à ta propre vie ce que tu viens de lire dans la parole de Dieu. Donc tout chrétien fait de la théologie. Alors ce matin, nous allons aborder un autre aspect de Dieu. Et ce qui nous est proposé à notre étude, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le traite, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est de parler en théologie de ce qu'on appelle de l'immanence de Dieu. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? L'immanence de Dieu, ça veut dire quoi ? Eh bien, l'immanence de Dieu, c'est un terme technique qui nous parle tout simplement de l'engagement de Dieu dans sa création. Autrement dit, Dieu ne se contente pas simplement de créer le monde, il s'engage. Il intervient, il agit concrètement, il fait quelque chose pour ce monde. La Bible affirme à la fois, comme je l'ai dit, que Dieu surpasse et que Dieu est plus grand que sa création, et c'est normal, sinon il ne serait pas Dieu. Et en même temps, et c'est là tout le paradoxe, Dieu est pleinement présent, agissant dans ce qu'il a créé. Et vous retrouvez ces deux aspects dans un texte de l'Écriture, Éphésiens au chapitre 4 et au verset 6. Dans Éphésiens 4, verset 6, il nous est dit ceci, il est question d'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout ou de tous. Donc ça affirme ce qu'on a dit, la transcendance de Dieu. Et ensuite, l'apôtre Paul dit aussi, parmi tous et en tous. Et ça nous parle de quoi? De l'immanence, de la présence de Dieu dans ce monde. Alors je vous propose de formuler mon message ainsi ce matin, en disant tout simplement en français courant, que Dieu est là et qu'il agit. Et finalement, la question qui se pose pour nous autres chrétiens, c'est de savoir, mais de quelle manière Dieu est-il présent dans notre monde? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que les hommes, au travers de l'histoire, ont pu dire, ont pu écrire concernant la présence et l'action de Dieu dans notre monde? Alors, avant de voir dans un deuxième temps ce que la Bible nous dit par rapport à ça, et ce que ça peut signifier aussi pour nos vies, dans un premier temps, j'aimerais voir un petit peu avec vous découvrir différentes manières de considérer l'action de Dieu dans notre monde, dans notre société. C'est ce qu'on appelle aussi différentes visions du monde. Vous l'avez compris, la vision biblique, c'est de dire que Dieu est pleinement impliqué dans sa création de manière active, mais à côté de cela, il y a d'autres manières de comprendre cela. Et même parfois, dans le milieu chrétien, il y a des manières de comprendre la présence et l'action de Dieu dans notre monde qui sont bancales et qui ne touchent pas simplement nos contemporains, mais qui nous affectent nous aussi personnellement. La plupart du temps, nous n'en avons même pas conscience. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans un premier temps, comment est-ce que d'autres personnes considèrent la présence ou l'action de Dieu dans notre monde. Alors, la première vision du monde que nous rencontrons dans notre société, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Alors, je vous encourage à prendre des notes pour ce message, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, puisque ce message fait partie de ce qu'on appelle les messages à thème, et puisque normalement, mercredi soir, dans les groupes de maison, vous allez revenir là-dessus. Donc, la meilleure des choses pour se rappeler de ce qui a été dit, c'est de prendre des notes, n'est-ce pas ? Ou en tout cas de noter dans sa mémoire vive, sachant que pour qu'on retienne quelque chose, normalement il faut le désapprendre au moins 7 fois. C'est seulement après l'avoir entendu 7, 8 fois, 9 fois, que enfin ça va s'ancrer dans notre petite tête. C'est pas pour rien qu'on répète souvent les choses à la maison, et que Dieu aussi dans sa parole nous répète souvent certaines vérités. C'est pas parce que Dieu est amnésique, hein, mais c'est tout simplement parce qu'on a besoin de le réentendre à plusieurs reprises. Donc prenez des notes, et puis sachez aussi que j'enverrai probablement soit la totalité de mes notes, soit un résumé à celles et ceux qui animeront le groupe de maison, et puis je vous proposerai aussi quelques questions pour pouvoir vous aider et poursuivre la réflexion. Donc, je le disais, première vision du monde, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Alors ça, c'est la croyance la plus répandue aujourd'hui dans notre société. Et cette manière de voir le monde, elle dit quoi? Elle dit tout simplement que Dieu n'existe pas. Que la seule chose qui existe dans notre monde, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qui est palpable. Autrement dit, c'est la matière. Rien n'existe en dehors de la matière. Ça veut dire que dans cette manière de voir notre monde, eh bien, il n'y a aucune place, ou alors très peu de place, que ce soit pour la spiritualité, ou une forme de spiritualité, ou alors, encore moins, pour Dieu. Et la conséquence de cela, ça va être un attachement excessif à tout ce qui est matériel. C'est ce qu'on voit dans notre société et ce dont certaines personnes prennent de plus en plus conscience. Même souvent, ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu, puisqu'on parle de société de consommation, où on parle aussi de ce qu'on appelle le consumérisme. Et on pense que non seulement les biens vont pouvoir nous aider, eh bien, à pouvoir téléphoner ou à pouvoir contacter quelqu'un, mais que les biens vont aussi pouvoir répondre aux questions profondes de l'être humain. À savoir d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais sur terre, et les biens sont censés aussi pouvoir apaiser nos craintes, notre anxiété, et faire en sorte qu'on va se sentir bien. Et derrière cela, ce que nous n'avons pas toujours conscience, c'est qu'il y a une vision du monde. Et la vision du monde, c'est quoi? C'est que nous sommes seuls dans cet univers. C'est que Dieu n'existe pas, c'est que la seule chose qui compte, c'est ce qu'on peut voir. Alors cette vision du monde, vous l'avez compris, c'est une forme d'idolâtrie. D'ailleurs, c'est la grande idolâtrie de notre société, puisque l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 5, que « aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ ». Et donc il dit que la cupidité, la soif de posséder, un attachement excessif aux biens matériels, c'est tout simplement de l'idolâtrie. Pourquoi de l'idolâtrie? Parce que derrière cela se cache une puissance spirituelle très active qui dirige notre monde du début jusqu'à la fin et qui s'appelle tout simplement Mammon. Alors vous allez me dire, nous, ça ne nous touche pas. Puisque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas idolâtres et nous n'avons pas cette vision du monde. Nous croyons en Dieu. Certes, nous croyons en Dieu, mais comme le faisait remarquer quelqu'un, bien des chrétiens sont des matérialistes pratiques dans leur comportement. Et un matérialiste pratique dans son comportement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche le bonheur dans les possessions matérielles plus qu'en Dieu. Chaque fois que je cherche ma sécurité dans les richesses ou les objets pour m'aider à me sentir mieux, chaque fois que je pense que telle chose ou tel objet changera ma vie ou me fera sortir de l'impasse dans laquelle je suis, en réalité, je suis un matérialiste pratique. Vous allez me dire quand même, mais un matérialiste croyant. N'est-ce pas? Mais il y a là une incompatibilité totale, encore plus qu'avec les autres visions du monde que nous allons voir dans quelques instants, puisque dans cette vision du monde, c'est incompatible avec la foi. Puisqu'en réalité, c'est une vision du monde qui est 100% athée. C'est-à-dire où Dieu n'a pas de place. Et il y a quelque part une immense contradiction. Et en nous, et en chacun d'entre nous, malheureusement, il y a parfois, voire même souvent, des contradictions. Certes, le chrétien a besoin de biens matériels pour vivre, Dieu le sait, mais à partir du moment où ça devient tout un objectif, eh bien, il y a un problème. Et comme cela nous a été rappelé ce matin, je crois que c'est Honoré qui le disait, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir Mammon et nous ne pouvons pas servir le Christ. Soit nous servons un et nous allons haïr l'autre, mais impossible de servir les deux. Deuxième vision que nous rencontrons dans notre monde et qui nous parle d'une certaine forme de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Alors de quoi s'agit-il? Le panthéisme est composé de deux mots grecs. Si vous avez fait grec, eh bien vous savez de quoi il s'agit. Pan qui signifie tout et théos qui signifie Dieu. Donc le panthéisme, c'est une croyance bien présente dans notre monde. Certes, on n'utilise pas ce mot-là, qui dit tout simplement que Dieu, que tout est Dieu. L'univers entier est Dieu ou une partie de Dieu. Vous retrouvez ça, par exemple, dans nombre de religions orientales. D'une certaine manière, dans le bouddhisme, mais pas entièrement, puisque dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Mais vous retrouvez ça dans l'hindouisme, par exemple. L'hindouisme qui a pour postulat de base d'avoir plus de 330 millions de dieux. Et la porte est ouverte à d'autres dieux. Vous retrouvez ça aussi, par exemple, dans les croyances animistes, qu'on retrouve pratiquement sur tout le continent africain, mais qu'on retrouve aussi dans bien des pays asiatiques, où il y a une confusion, un mélange, où on vous explique que Dieu ou la divinité, eh bien, elle se retrouve partout. Vous retrouvez ça aussi dans le célèbre film que vous avez probablement vu comme moi, Avatar. Avatar est un film excellent dans le sens qu'il nous montre vraiment la vision panthéiste du monde. Ça veut dire que Dieu est présent partout. Il est présent dans la nature, il est présent dans les arbres, dans l'eau, dans l'air, dans les animaux. Tout est une partie de Dieu. C'est pour ça qu'il faut respecter, vous dira-t-on, non seulement la création, mais on va aller beaucoup plus loin que cela. C'est quelque chose, finalement, quand on réfléchit un petit peu, de très actuel dans notre société, qu'on voit se manifester notamment au travers de certains films, au travers du Nouvel Âge, au travers du mouvement néo-païen, ou du néopaganisme, on appelle ça, qui est une résurgence de vieilles croyances ancestrales qu'on voit se développer de plus en plus dans notre société. Par exemple, en Bretagne, vous avez une recrudescence de ce qu'on appelle le druidisme. Des pratiques qui étaient considérées comme moyenâgeuses sont remises aujourd'hui au goût du jour. Et vous retrouvez même cela, d'une certaine manière, dans le mouvement écologiste, ou en tout cas dans une certaine partie de ce mouvement-là, qui parfois verse dans une vision sacralisée de la nature. Puisqu'on va vous parler de la déesse Terre, ou du culte de la Terre, alors je ne suis pas en train de dire ici que l'écologie est panthéiste, mais je dis que dans l'écologie, il y a certains mouvements qui sont radicaux, et où on va avoir cette tendance à tout diviniser, à tout sacraliser. Et derrière ça, la vision qui se cache, c'est quoi? C'est cette vieille vision qui remonte à l'Antiquité du panthéisme. Et nous pensons nous en être détachés, mais absolument pas. Aujourd'hui, ça ressurgit de plus en plus. Pourquoi? Parce que nos contemporains ont besoin de Dieu, ont besoin de la présence de Dieu. Et donc, ne sachant pas forcément où aller, ils cherchent à droite et à gauche pour essayer de trouver des choses qui vont pouvoir les aider. Alors, que faut-il en penser d'un point de vue biblique? Eh bien, le panthéisme confirme avec raison l'immanence de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu est présent partout au sein de notre monde et de l'univers. Paul dira par exemple dans Actes 17, 28, nous avons en lui, en Dieu, le mouvement et l'être. Mais le panthéisme commet aussi bien des erreurs. Il nie par exemple la transcendance de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu est indépendant du monde. Et que Dieu est plus grand que l'univers. Et en plus, dans le panthéisme, Dieu n'a pas de personnalité distincte. Il se confond dans l'univers, un peu comme dans le film Avatar. Il est diffus, diffusé dans tout l'univers, dans la nature, partout. Et il n'a plus de personnalité distincte. Et le problème de cela, c'est que s'il se confond dans l'univers, l'univers, nous le savons, change. Et ça veut dire aussi, par conséquent, que Dieu change. Or, la Bible nous dit que Dieu est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Ce qu'il est depuis le début, il l'est aujourd'hui. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre, ni variation. Nous, nous changeons parce que nous sommes créés, nous sommes humains. Mais Dieu, puisqu'il est plus grand, ne peut pas changer. Et qui plus est, dans cette vision du monde, non seulement Dieu se fond ou se confond avec sa création, et par conséquent il n'est plus une personnalité distincte, mais la vision derrière ça, c'est que l'être humain aussi, tout doucement, se fond dans cette divinité. Et que l'être humain n'est par conséquent alors plus distinct. Alors contrairement au matérialisme que l'on retrouve pas mal dans le christianisme, la vision panthéiste est moins présente, je trouve, dans les milieux chrétiens. Néanmoins, nous devons être vigilants, car nous voyons parfois pas mal de mouvements spiritualistes aujourd'hui, qui peuvent être liés ou non à l'écologie, et qui peuvent avoir une vision proche du panthéisme. Et comme il est question de Dieu présent partout, eh bien, en tant que chrétien, ça peut être une occasion de pouvoir parler de notre foi, mais de faire attention et de ne pas verser, comme le font nombre de nos contemporains, dans une sorte de presque d'adoration de la création. Paul dira, il dira que au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature ou la création. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dans le panthéisme, c'est ça. Finalement, ça nous pousse à adorer la création au lieu d'adorer le Créateur, le seul, le vrai, l'unique, qui se trouve derrière. Ça va, vous me suivez ? Troisième vision du monde, c'est ce qu'on appelle le dualisme. Alors le dualisme, c'est quoi ? C'est aussi quelque chose de très actuel, c'est l'idée selon laquelle Dieu et l'univers matériel ont toujours existé l'un à côté de l'autre. Finalement, l'idée ici, c'est qu'il y aurait dans l'univers deux grandes forces fondamentales. Si vous voulez comprendre ça, bien c'est Star Wars. En plus, ça sort là très bientôt, je crois, cette semaine, hein, le dernier volet de la trilogie. C'est vraiment ça. Star Wars, où vous avez le principe de la force, avec un côté qui est bon, et puis un côté qui est mauvais. Et puis, on sait jamais trop qui va gagner. Un coup, c'est le côté bon qui gagne, et puis une autre fois, c'est le côté mauvais qui va gagner. Eh bien, le dualisme, c'est exactement ça. D'un côté, il y aurait Dieu. D'un autre côté, il y aurait la matière ou le mal, et la matière qui est souvent mal considérée, et sans cesse, il y aurait une sorte de lutte constante entre les deux. Et puis finalement, on ne sait pas trop qui va remporter la victoire. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, dans les milieux évangéliques, ça se retrouve pas, mon œil. Bien sûr que si, ça se trouve, notamment sous deux formes. La première forme, c'est dans tout ce qui touche autour du combat spirituel. Vous savez que j'enseigne souvent sur ce sujet-là. Eh bien, on retrouve beaucoup ça dans le combat spirituel, dans l'intercession, dans tout ce qu'on appelle la démonologie aussi, le fait de chasser des démons, etc. Et puis, parfois, vous retrouvez ça aussi dans certaines assemblées de type un petit peu triomphaliste, où on vous parle de victoire, de puissance, de combat remporté. Et dans le discours, parfois, de certains, vous avez l'impression que Dieu et Satan sont en réalité, c'est un petit peu le plus et le moins. Ou alors, pour prendre une autre image, le yin et le yang. Ou alors le bon côté de la force et le mauvais côté de la force. Et que finalement, on ne sait pas trop qui va remporter la victoire. Tout dépend de la manière dont on va prier, tout dépend de l'intensité des paroles qu'on va avoir, tout dépend de la puissance qui va se manifester ou autre. Un coup, c'est Dieu qui va remporter la victoire, et puis une autre fois, c'est le malin. Alors bien sûr, en théorie, les gens vont vous dire, mais non, c'est le Seigneur qui a remporté la victoire. Mais bien sûr, mais en pratique, ils vont pas le vivre. C'est comme si Dieu, c'était le plus et le moins. Et puis vous retrouvez ça aussi dans le fait que le dualisme encourage aussi les gens et les chrétiens à considérer la réalité matérielle comme mauvaise en soi. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est présent dans certains milieux chrétiens, bien sûr pas chez nous à Ingolsheim, mais dans d'autres mouvements chrétiens. Vous savez, vous avez bien des mouvements évangéliques qui considèrent la réalité matérielle comme mauvaise. Et ça se voit de 36 000 manières. Pour les plus anciens parmi nous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, lorsque Billy Graham est arrivé en France, la première fois, le célèbre prédicateur américain, il est arrivé, sa femme avait des collants et sa femme était maquillée. Et tout de suite, dans les milieux chrétiens, partout en France et ailleurs, ça parlait, ça jasait, elle met des collants, ce qui se mettait pas à l'époque, et elle était maquillée. Et on disait, bah ça c'est pas bien, ça c'est le monde. Mais la pensée qui est derrière cela, c'est quoi ? La pensée, c'est que la matière est mauvaise. Et aujourd'hui, ça ressurgit de 36 000 manières. Ça peut ressurgir au travers des biens que certains peuvent se permettre d'acquérir ou d'autres, où on va parfois les juger, où on va dire, ah ben lui, il a telle voiture, il a telle maison, il a ceci ou cela, comme si le matériel était mauvais en soi. Quelque part, c'est on considère que la matière est mauvaise en tant que telle. Et c'est la vision du monde qui se cache derrière. Or, cette vision du monde n'est pas biblique. La vision du monde par rapport à quoi, c'est, par rapport à ça, c'est quoi? Eh bien, c'est que Dieu a tout créé. Non seulement nous, mais Dieu a aussi créé la matière. Et dans tout ce que Dieu a créé, il nous est dit chaque fois comme un refrain qui revient, qui est scandé à plusieurs reprises, dans les deux premiers, dans le premier livre du livre de la Genèse, et Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon, très bon. Par conséquent, y compris la matière, c'est pas mauvais, elle n'est pas mauvaise, c'est Dieu qui l'a donnée. Le problème, c'est quand on verse dans ce qu'on a vu tout à l'heure, le matérialisme, ça devient le sens et le but de notre vie. Et que c'est là pour nous rassurer et nous conforter. Alors que celui qui doit nous rassurer et nous conforter, c'est Dieu d'abord. Donc vous voyez finalement que ces visions du monde, elles sont pas simplement dans notre société, elles sont pas simplement les gens qu'on croise au travail, qui épousent ces visions souvent alors qu'ils ne le savent absolument pas, mais ces visions du monde, nous les retrouvons également au sein de l'Église. Parfois même, on n'en a pas conscience, alors qu'on se targue d'être fidèle et de suivre le Seigneur et de faire ce qu'il nous dit dans sa parole. Quatrième vision du monde, et je termine avec celle-ci, c'est ce qu'on appelle le déisme. Alors la vision déiste du monde, c'est quoi? C'est tout simplement l'opposé du panthéisme. Dans le panthéisme, tout est Dieu. Dans le déisme, Dieu est transcendant. Il est tellement au-dessus, il est considéré un petit peu comme l'horloger de l'univers. C'est-à-dire que au début, certes, il a créé le monde, il a créé l'univers, il a donné une première impulsion, une chiquenaude, allez, paf, on lance la machine, et après, salut, ciao ciao, bye bye, je vous laisse vous démerder. Ça, c'est le déisme. Dieu serait présent à la base, mais après, il retire ses billes, et maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Il n'est plus actif dans la création et par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que cette manière de considérer le monde nie toute l'histoire biblique où l'on voit Dieu se manifester, agir concrètement au sein de son peuple. Alors ça, c'est une vision du monde que nous ne retrouvons pas beaucoup dans notre société. Par contre, on retrouve certaines formes du déisme au sein du christianisme. Vous avez ce qu'on appelle des chrétiens déistes, pratiques. Il faut toujours rajouter pratique, parce que nous, on est souvent pratiques, quoi. Matérialiste pratique, panthéiste pratique, déiste pratique. La vie du chrétien déiste pratique, c'est quoi? C'est une vie qui sera dépourvue de prière, d'adoration, de crainte de Dieu, d'intérêt pour la parole de Dieu, de manque de confiance en Dieu pour l'aider dans ses besoins quotidiens. Finalement, c'est un chrétien qui croit en Dieu, mais qui a une vision de Dieu, waouh, il est loin, quoi. Il a agi un jour dans mon histoire, c'était en 2005, tu vois, mais depuis, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est vraiment la vision d'un Dieu qui est très, très lointain. Souvent, les chrétiens un petit peu nominaux qu'on retrouve dans certaines grandes traditions chrétiennes, que nous ne nommerons pas, sont parfois des chrétiens déistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine forme de foi ou de croyance en Dieu, mais concrètement, aujourd'hui, Dieu, il fait plus grand-chose. Il n'agit pas beaucoup. Et parfois, on retrouve ça dans nos milieux évangéliques, hein, quand la résignation s'installe, quand on se laisse gagner par le découragement, quand on commence à dire « mais où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas ?» Alors dans toutes ces visions du monde, vous l'avez compris, excepté le matérialisme, on retrouve des éléments qui correspondent en partie à ce qu'on peut trouver dans la Bible, et il faut le souligner, mais qui sont insuffisants. Et nous préciserons ici que la Bible seule maintient un juste équilibre. Alors justement, que nous dit-elle par rapport à cette question de la présence et de l'action de Dieu dans notre monde? J'aimerais terminer avec ce deuxième point qui sera plus court que la première partie. Et René, il souffle parce qu'il croyait que j'avais 5 points dans mon message, tu vois. Il n'y en a que 2, René. Hein? Le premier fait que je note dans la Bible, ou que nous pouvons noter, puisque c'est le thème de notre réflexion ce matin, c'est que Dieu est présent partout. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers qui échapperait à la présence de Dieu. Dieu est le maître de l'espace, du temps, c'est ce que David affirme, par exemple au psaume 139, versets 7 à 10. « Où irai-je, dit-il, loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les endroits les plus improbables, David, qui a écrit ce psaume il y a 3000 ans et qui n'avait pas la conscience de la présence de Dieu que nous avons aujourd'hui, eh bien réalise que l'Esprit de Dieu est présent partout. Non seulement en haut près de Dieu, mais même au séjour des morts, qui pour le juif était un endroit où Dieu ne se trouvait pas, c'était pas possible que Dieu soit là. Même au-delà de la mer, même dans les fonds marins, Dieu est présent. Or, les fonds marins, pour les juifs, ça faisait peur, puisque c'est un endroit qui était peuplé de créatures étranges, de démons. C'était un endroit, le juif avait peur de cela. C'est pas un peuple marin, le peuple juif. Eh bien, même dans ces endroits-là, les auteurs bibliques perçoivent que Dieu, qui est en train de se révéler, sa présence, elle est partout. Même dans des endroits hostiles qui font peur, Dieu est là. D'autres passages qui confirment cela, comme Jérémie 23-24, « Le Seigneur remplit les cieux et la terre ». Donc non seulement le Père est présent partout, l'Esprit, nous l'avons dit, est présent partout, mais le Fils aussi est présent partout, puisqu'il dira que « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Et quand il quittera ce monde, il dira quoi ? Il dira « Je suis avec vous tous les jours. » Et c'est pas une promesse électorale, ça. Je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire que la présence du Christ est promise partout à tous ceux qui croient en lui. Alors Dieu est présent partout. Et en même temps, comme nous le disions au début de mon propos, il est plus grand que sa création. Et il faut maintenir ces deux aspects qui parfois on a du mal à les faire rentrer dans notre tête, mais c'est ainsi. Mais en même temps, Dieu est plus grand que sa création, puisque Salomon dira ceci, « Les cieux des cieux ne peuvent le contenir ». Ça veut dire qu'il n'est pas limité par les frontières de l'univers qu'il a créé, il déborde. Et c'est normal qu'il déborde, puisqu'il est Dieu. Et puis en même temps, il agit de manière continuelle, sans répit, dans sa création, pas seulement pour les hommes, le livre de Job affirme que même les animaux et les plantes dépendent de Dieu. Il nous est dit ceci, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Et tout à l'heure, j'ai cité ce passage, à savoir qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Notez bien, Dieu maintient toute sa création, y compris les animaux, les plantes, mais Dieu ne se confond pas avec sa création. C'est pas le panthéisme, il n'est pas dans sa création. Ok ? Et c'est là que l'erreur que commettent bien des spiritualités, des religions, aujourd'hui et nos contemporains, c'est qu'ils confondent. Or, il est là, il soutient tout, mais il ne se trouve pas à l'intérieur de cela. La Bible dit encore que si Dieu retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait et l'homme retournerait à la poussière. Et il y a là quelque chose de beau, de fort. Ça veut dire que si notre monde aujourd'hui subsiste, s'il est tel qu'il est, eh bien, c'est parce que Dieu est présent. Si vous êtes là ce matin, si vous pouvez respirer, si le lapin, le hamster, le cheval, le cochon que vous avez peut-être à la maison, ou la dinde qui est là, qui est prête à être, hein, pour Noël, ou que sais-je, subsiste jusqu'à présent, c'est pas simplement parce que vous avez été gentil et vous l'avez pas encore passé à la casserole, mais c'est parce que Dieu soutient toute sa création. Si Dieu se retirait de sa création, c'est comme dans Infinity War avec Thanos, pour ceux qui l'ont vu, hein, paf, d'un claquement de doigts. Pour ceux qui ont vu le film, immédiatement, c'est la moitié de la création qui périt. Là, le Seigneur, il n'a pas besoin de faire ça. Il retire simplement sa personne et immédiatement, c'est toute chair qui périt. C'est très intéressant. Ça veut dire que Dieu est présent, actif au sein de notre création. Et de là, nous pouvons en tirer quelques conséquences pratiques et je conclue avec cela. Première conséquence pratique, ça veut dire que tout être humain, quel qu'il soit, y compris celui ou celle qui ne croit pas, eh bien, bénéficie d'une certaine manière, non seulement de l'action de Dieu dans notre monde, mais même de la présence de Dieu. C'est en ce sens qu'il faut comprendre cette parole de Jésus qui dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Que nous soyons croyants ou non, tout le monde bénéficie de la pluie, tout le monde bénéficie du soleil. Tout le monde bénéficie aussi de la paix et de la joie dans le cœur. Vous avez plein de gens qui ne sont pas croyants et qui sont joyeux, qui sont heureux, qui sont contents de vivre, qui sont reconnaissants, pas à Dieu, mais à la vie. Et c'est quoi? Ça fait partie de ce qu'on appelle la grâce commune. C'est parce que Dieu, d'une certaine manière, est présent dans notre monde. Certes, ils ne connaissent pas encore le Christ, ils ne sont pas encore sauvés, mais ils bénéficient déjà de la grâce et de la présence de Dieu. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas quel mot mettre là-dessus. Ils vont dire merci la vie, tout simplement. Mais derrière la vie, c'est merci Dieu. Puisque c'est lui qui anime par son souffle toute chose. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire « Merci Seigneur ». Est-ce que le matin, lorsque vous vous levez, vous pensez des fois à dire « Merci parce que j'ai le souffle de vie qui est là ». Moi, j'ai découvert ça en Afrique et ça m'a toujours étonné de prier avec mes amis africains. Première chose qu'ils vont dire lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est « Seigneur, merci parce que je suis vivant ». Alors pour nous, c'est une telle évidence, on se dit si on a un problème de santé, on ira voir les médecins ou autres. Mais dans des pays ou dans des endroits où c'est parfois tellement difficile, où la vie peut être compromise, où très rapidement on peut avoir un problème de santé, voire même perdre la vie, dire merci à Dieu pour la vie, c'est lui dire « Je te remercie parce que tu me donnes une journée de plus et parce que tu maintiens le souffle de vie en moi. J'ai cette force, j'ai cette énergie qui est là. » Et ça vient de notre Créateur. Et ne serait-ce que pour cela, nous pouvons lui dire « Seigneur, merci. » Parce que tu ne nous lâches pas, tu ne nous abandonnes pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre monde. Mais en même temps, regardons tout ce qui va. Deuxième conséquence, Dieu est présent. Et ça veut dire aussi qu'il agit de manière particulière, individuelle, spéciale pour son peuple. Le grand privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas simplement de bénéficier de la présence globale, générale de Dieu dans ce monde. Mais le grand avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir bénéficier de la présence spécifique, individuelle de Dieu pour nous. Ça veut dire que lorsque nous avons un besoin, nous avons une demande, nous avons un souci, nous avons une reconnaissance, nous avons un besoin quel qu'il soit, nous pouvons nous tourner vers lui. Puisqu'il ne sait pas, il n'a pas simplement créé le monde et il se serait retiré, il est actif, il est là. Et puisqu'il est là, il agit de manière spécifique, individuelle, pour chacun de ses enfants. Troisième conséquence que je vois pour nous, eh bien, Paul dira que cette présence est tellement forte que nous devenons, même pas nous devenons, qu'à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. À côté de toi, il y a un temple. Toi, t'es pas convaincu hein, quand tu regardes Honoré. Ah ben si, c'est le temple du Saint-Esprit. Certes, nous sommes des temples parfois un peu bizarres, mais nous sommes des temples, puisque nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Et puisque nous sommes porteurs de la présence de Dieu, ça veut dire que où que nous soyons, nous pouvons nous connecter à Dieu. Et par conséquent, il y a là quelque chose de très intéressant que souvent nous zappons complètement dans nos milieux chrétiens. On aime bien chercher Dieu dans des endroits bien particuliers, on aime bien se rendre à des conventions, tout ça c'est intéressant, parce qu'on s'attend à une action spécifique, particulière de Dieu. Mais ce faisant, nous oublions que le premier endroit où nous sommes appelés à chercher Dieu, c'est en nous-mêmes. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Ça aussi c'est une autre dérive. Mais ça veut dire que Dieu, nous pouvons le trouver en nous-mêmes. Romains 10 nous dit que la parole de Dieu est plus proche de toi, elle se trouve littéralement en toi, elle est là dans ton cœur. La parole de Dieu, on ne va pas la chercher à l'extérieur, la parole de Dieu, elle se trouve en nous. Lorsque nous lisons les Écritures, mais lorsque nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit Saint qui est en nous. Et ça demande de faire le calme, le silence pour savoir écouter Dieu qui veut parler et se manifester en nous. Et puis la quatrième et dernière conséquence que je vois de cette doctrine de l'immanence de Dieu, et ça je ne vais pas le développer, même s'il aurait eu beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est que l'action de Dieu est souvent discrète. Elle est douce, elle est fine. Nous autres évangéliques, c'est pas notre grande force, alors on a beaucoup de force, mais on parle souvent de la puissance de Dieu. D'ailleurs, nous utilisons toutes sortes de superlatifs pour parler de ce que Dieu fait. C'était incroyable, c'était extraordinaire, c'était merveilleux. Le Seigneur a fait des choses magnifiques. C'était une explosion de miracles, tu vois, c'est toujours, oh mon Dieu, mais t'as des éclairs, ça pète de partout, quoi. Ça, tu retrouves dans plein de milieux évangéliques, parfois, où je passe, quoi, où on insiste beaucoup sur le fait que, waouh, Dieu fait des choses, waouh, c'est, tu vois, c'est, tout le monde va le voir. Un petit peu comme quand Jésus était là. Alors oui, effectivement, Dieu agit parfois de manière forte, puissante, visible. Mais nous oublions trop souvent, et c'est aussi ce que nous enseigne cette doctrine de l'immanence de Dieu, que le Seigneur n'agit pas toujours avec des éclairs, du feu, du tonnerre, l'ouragan et tout le tralala. Dans le livre des Rois, nous trouvons ce passage que j'aime bien, où Dieu va se révéler de manière nouvelle au prophète Élie. Alors Élie a vécu des moments très forts, notamment sur le mont Carmel, où là effectivement le feu de Dieu se manifeste et Dieu est dans le feu. Mais là, à un moment donné, il vit un moment de découragement ou de grand abattement après cela. Et là, Dieu se manifeste à lui et il va comprendre que Dieu n'est pas dans le feu, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le vent, ni dans la tempête, qui sont tous en réalité des moyens par lesquels, dans l'Ancien Testament, Dieu parfois se manifeste. Mais là, Dieu se révèle à son prophète et lui, il va comprendre qu'il se trouve dans un souffle doux et subtil. En réalité, c'est même pas un murmure. Si là, maintenant, on se tait, on entend quand même quelques bruits, ça et là, de bouche, ou on bouge, ou que sais-je, mais là, c'est même pas ça, quoi. C'est encore plus doux que cela. Et Élie va comprendre que Dieu se trouve dans ce souffle doux et subtil. Et il va le comprendre puisqu'il va se voiler le visage. Et en se voilant le visage, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît que Dieu est présent là. S'il ne s'était pas voilé le visage, il serait mort. Puisqu'on ne peut pas voir la présence de Dieu, tenir dans sa présence. Et ça, c'est très intéressant parce que la présence et l'action de Dieu dans notre monde et dans nos vies, eh bien c'est aussi cela, c'est un souffle doux et subtil. Souvent, nos contemporains et nous-mêmes, nous nous posons la question, nous nous disons, mais où est Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait dans notre monde? Parce que nous, on a la vision d'un Dieu conquérant, d'un Dieu qui vient, qui agit, qui met de l'ordre. Mais si Dieu devait agir ainsi, on se plaindrait immédiatement. On le voit dès que nos gouvernements ou autres essayent de mettre un petit peu d'ordre dans un endroit. D'un côté, on le demande, et puis d'un autre côté, dès qu'on essaye de faire quelque chose, tout de suite, on va râler. Imaginez ce que ça serait si Dieu agissait ainsi. Dieu n'agit pas de cette manière-là. Non seulement il est présent au sein de la création, mais il agit mais de manière douce, subtile, mais ferme. Et finalement, très très puissante. Beaucoup plus puissante que s'il devait agir avec des éclairs et le tonnerre. Et la présence et l'action de Dieu dans notre monde et dans nos vies, c'est aussi cela. Un souffle doux et subtil. Et un souffle doux et subtil, c'est exactement ce qui s'est passé à Noël il y a 2000 ans. Pas de feu d'artifice, pas de couverture médiatique mondiale, pas d'annonce sur Facebook, Instagram, Twitter et tous les autres réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Rien du tout. Pas de grande réception avec buffet, banquet et tout le tralala. Absolument pas. Le Sauveur qui naît dans la plus grande simplicité. Et dans la plus grande discrétion. Seuls que quelques personnes sont informées. Et ceux qui vont être informés, c'est ceux qu'on n'attend absolument pas. Des bergers qui sont des drôles de bonhommes, des mages qui trafiquent plus ou moins, qui ne sont pas très clairs probablement au niveau occultisme. Vous voyez, des personnes comme ça. Dieu va se révéler à ces personnes-là et c'est eux qui vont comprendre. Dieu agira de manière douce et subtile au travers de la naissance du Sauveur. Mais regardez comme c'est puissant ce que Dieu fait. Même si on a l'impression que c'est tellement discret, mais en même temps c'est tellement puissant. Parce que Dieu contrôle et maîtrise parfaitement les événements. Du début à la fin, jusqu'à la mort et la résurrection du Christ, Dieu a tout minuté. Et toujours de manière douce et subtile. Alors c'est aussi ça, la doctrine de l'immanence ou de la présence de Dieu dans notre monde. Dieu qui agit réellement, mais qui n'agit pas comme nous le pensons. Parce que nous plaquons nos manières de penser sur Dieu. Et nous pensons que Dieu va agir comme ça. Mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne de manière totalement différente. Et au travers de ce temps de Noël, eh bien, nous sommes aussi invités à décrypter, à reconnaître comment est-ce que Dieu se manifeste dans notre Église. Comment est-ce que Dieu est présent dans nos vies? Comment est-ce qu'il s'est manifesté cette semaine? Comment il s'est manifesté pendant cette année? Comment est-ce que Dieu a été présent? Peut-être que nous attendions de grandes choses, mais il est fort probable que Dieu ait fait plein de petites choses ou des choses qui étaient réellement présentes, mais nous n'avons pas su, parfois nous ne savons pas les discerner. Et c'est aussi ça la doctrine de l'immanence de Dieu, savoir discerner la présence de Dieu dans nos vies. Comment est-ce qu'il agit? Et nous rappeler que Dieu est présent dans ce monde, est présent dans nos vies, et que nous pouvons tout simplement nous tourner vers lui et expérimenter très rapidement son action lorsque nous nous adressons à lui. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur parce que nous te sommes reconnaissants parce que tu es présent et que tu n'as pas retiré et que tu ne retires pas Seigneur ton souffle de vie de ce monde. Nous te remercions Seigneur parce que si ce monde peut subsister aujourd'hui, c'est parce que tu y es pleinement présent, non seulement dans notre monde mais dans tous les confins de notre univers, dans les endroits reculer dans les endroits les plus hostiles où l'homme peut-être n'arrivera jamais, eh bien Seigneur, partout tu es là. Seigneur, nous voulons te prier qu'en ce temps de Noël où tu te manifestes de manière si simple et tellement discrète dans la personne de Jésus, nous puissions te reconnaître et reconnaître aussi ton action dans nos vies. Nous voulons aussi, Seigneur, te demander que tu nous gardes et que tu nous aides à nous détourner de d'autres visions du monde que nous avons vues ce matin qui ne correspondent pas à ta manière d'être présent à ce monde. Nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui remplisse pleinement nos vies. Et Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions parce que tu agis dans notre histoire, dans l'histoire de notre Église, mais aussi dans notre histoire personnelle. Nous ne percevons pas tout ce que tu fais, mais Seigneur, nous savons que tu es là et nous voulons te rendre toute la gloire parce que en Jésus, tu es devenu encore plus proche et tu veux devenir plus proche encore pour beaucoup parmi nous aujourd'hui. Amen. Amen.